France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Troisième épisode consacré à l'Égypte antique, la mythique bibliothèque d'Alexandrie. Son aura a traversé les millénaires et elle reste la référence de la bibliothèque idéale, alors même qu'il n'en reste rien. Comment reconstituer son histoire ? Alexandrie n'a pas simplement été la plus célèbre de toutes les bibliothèques, elle fut un véritable centre de recherche, une sorte de CNRS antique. Pour la première fois, on tente de rassembler la totalité des connaissances et d'organiser un savoir universel avec une collection riche de 500 000 rouleaux. La liste des savants passés par ici est longue. Euclide ou même Archimède, fondée au 3e siècle avant notre ère, elle aurait, selon la vision populaire, disparu dans les flammes lors de la guerre entre César et Pompée en moins 48. En réalité, on n'en sait presque rien. Comment les fouilles archéologiques permettent-elles de combler ces lacunes ? Alexandrie, une bibliothèque au coin du feu. Chloé Ragazzoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales sur la chaire Écriture, Savoir, Pouvoir, le laboratoire égyptien et présidente de la Société française d'égyptologie. Jean-Luc Fournet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, chaire culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, ici en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous rejoignant sur Blue Sky. On publie pour vous tous les jours de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencescqfd. Alors quand et pourquoi cette bibliothèque a-t-elle été construite ? S'agissait-il d'une volonté assumée de faire de l'Égypte un haut lieu des savoirs de l'époque ? Et comment cette connaissance était-elle structurée ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment Alexandrie est-elle devenue une capitale intellectuelle ? La question est posée en 1952, c'est notre archive du jour.
Les premiers mécènes de l'histoire sont sans doute les souverains hellénistiques et entre tous les Ptolémées, rois d'Égypte. Quelles raisons les conduisirent à se faire les protecteurs généreux des lettres, des arts et des sciences? Les goûts personnels de ces princes cultivés ne suffisent point. Des raisons politiques, mais d'une politique à large vue, les inspirèrent certainement. La politique de fusion de races, inaugurée par Alexandre et continuée quelque temps par les Diadoques, n'implique pas le moins du monde une égalité des cultures. La civilisation hellénique doit prévaloir sur la barbarie. Le rayonnement extraordinaire d'Athènes au IVe siècle a porté ses fruits. Même vaincue, elle est respectée par Alexandre comme le foyer de la culture grecque. Alexandrie sera une nouvelle Athènes. Si les Ptolémées n'ont pas eu la prétention d'en faire la capitale politique du monde hellénistique, ils eurent certainement celle d'en faire sa capitale intellectuelle, et ils réussirent. Elle le fut pendant plusieurs siècles pour tout le bassin méditerranéen et pour Rome elle-même.
Voilà la civilisation hellénisque, un extrait d'émission L'heure de culture française diffusée sur la RDF en 1952, la voix de l'archéologue Pierre Demargne. Pour Jean-Luc Fournet, comment, pour compléter cette archive, voilà dans quel contexte fut créée cette bibliothèque d'Alexandrie ? On reviendra évidemment sur sa création et sa chute, mais voilà, dans quel cadre on se situe à ce moment-là ?
Oui, alors les auditeurs peuvent être étonnés qu'on parle d'une bibliothèque grecque en Égypte. Il faut replacer ça dans le contexte historique, c'est-à-dire que Alexandre envahit l'Égypte, fonde Alexandrie en 331, repousse les Perses qui avaient conquis l'Égypte pendant un certain temps, et à partir de ce moment-là s'instaure en Égypte un régime, on va dire hellénophone, un régime grec. C'est la fameuse dynastie des Lagides. Pourquoi Lagides ? Parce que le premier des rois grecs va être Ptolémée Ier, dit Soter, qui prend le titre de roi en 305, et il est fils de Lagos. Donc on parle de la dynastie des Ptolémées ou de la dynastie des Lagides, jusqu'à Cléopâtre, Cléopâtre VII, Cléopâtre la Grande, qui meurt alors que Alexandrie est en train d'être envahie par les Romains en 30 avant Jésus-Christ. Et donc pendant cette période, l'Égypte va être de langue grecque. Et elle va continuer à être grecque après la conquête romaine. Donc pendant quasiment un millénaire, l'Égypte va avoir une administration de langue grecque, même si évidemment le gros de la population continuera à parler l'égyptien.
Votre réaction, Chloé Ragazzoli, à l'écoute aussi de cette archive qui place un peu le décor ?
Oui, alors on présente ces rois lagides comme des protecteurs généreux, des mécènes. On voit donc que cette bibliothèque, finalement, ça s'inscrit dans une volonté politique de faire d'Alexandrie une vitrine. Et ça rentre dans la définition d'un grand roi de faire preuve de munificence. Il faudrait peut-être le terme exact. Et de rivaliser par là même avec Athènes, évidemment. Et d'autres capitales de ce monde hellénistique où des tentatives similaires ont lieu, comme à Pergame, par exemple. Donc la bibliothèque s'inscrit très largement dans un programme politique de faire d'Alexandrie une sorte de phare de ce monde hellénistique oriental.
On reviendra dans quelques instants justement sur cette volonté de faire un peu de soft power même avec cette bibliothèque. Mais d'abord, Chloé Ragazzoli, cette dynastie des Lagides, il faut parler plutôt de roi ou de pharaon ?
Les deux.
Les deux, mon capitaine.
Ça dépend de la langue qu'on utilise, puisque l'Égypte devient un royaume grec, mais reste un territoire de langue égyptienne. Et ces rois vont adopter une double identité dans le discours officiel, à la fois se présenter comme des rois grecs, de langue grecque, mais aussi se tourner vers l'Égypte dans toute la longueur de son histoire, comme des pharaons, habillés comme tels, dans des monuments qui les représentent avec tous les attributs qu'on connaît d'un pharaon et devant lequel on ne pourrait pas les distinguer des grands pharaons classiques comme Ramsès.
Jean-Luc Fournet.
Oui, on est dans une société vraiment où s'installe un biculturalisme, c'est-à-dire que selon le type de monument, on a des temples égyptiens où les pharaons, les Ptolémées, Alexandre lui-même qui s'est fait couronner pharaon, sont représentés à l'égyptienne avec des textes en hiéroglyphes, et puis on a des temples à la grecque où là, on a des divinités et des représentations iconographiques qui sont de style grec. Voilà, donc on est vraiment dans un profond biculturalisme qui va durer très longtemps.
Biculturalisme, et pourtant la langue officielle c'est le grec, non, Chloé Ragazzoli?
Alors la langue vernaculaire en Égypte est la descendante de la langue égyptienne ancienne qui va ensuite évoluer vers le copte, mais on est aussi à une époque où la lingua franca de la Méditerranée orientale est le grec depuis longtemps. Donc on peut imaginer qu'il y avait des gens exposés aux échanges, notamment qui parlaient grec dans les comptoirs du côté de la Méditerranée depuis un certain temps.
Jean-Luc Fournet. Sur justement les usages des langues, parce qu'à ce moment, enfin, Alexandrie va vite devenir une ville très célèbre et aussi une ville très cosmopolite.
C'est une ville cosmopolite, mais qui est restée foncièrement grecque. C'est-à-dire, c'est une fondation grecque et son architecture est avant tout grecque. On y parle le grec, et c'est vrai que les communautés égyptiennes ne sont pas aussi diffuses, aussi représentées à Alexandrie qu'elles peuvent l'être sur le reste du territoire, ce qu'on appelle la Kora. Voilà, ce qui est important, c'est de voir que Alexandrie est une ville foncièrement grecque parce que créée par des Grecs, ce qui évidemment ne n'implique pas nécessairement le refus des traditions indigènes, puisque les premiers Ptolémées vont essayer aussi de comprendre les habitants du pays sur lequel ils régnaient. Ils vont essayer, alors en général, les Ptolémées ne parlaient pas l'égyptien. Une des seules exceptions, c'est Cléopâtre la Grande, dont on dit qu'elle connaissait l'égyptien, qu'elle était capable de parler l'égyptien, mais les autres, ses prédécesseurs, ne connaissaient pas l'égyptien, mais ils ont malgré tout essayé de comprendre les traditions égyptiennes, et notamment en faisant traduire des écrits égyptiens en grec, et notamment Manéthon, qui est un prêtre qui a joué un rôle extrêmement important d'interface entre la culture égyptienne et la culture grecque. On a de Manéthon des traductions grecques d'annales et de textes aussi religieux égyptiens. Et donc, Manéthon a été une sorte de passeur de cette culture égyptienne en grec. Mais je pense que Chloé aurait peut-être plus à dire sur Manéthon que moi.
Chloé Ragazzoli, on va aussi revenir sur un point très important à ce moment-là de l'émission, parce que là, on a aussi beaucoup entendu dire que c'était Alexandre le Grand qui avait eu l'idée de la grande bibliothèque. Ça, c'est quelque chose qui a été contesté. On sait que cette idée a été proposée par Ptolémée Ier. L'initiateur de cette bibliothèque, c'est lui, Ptolémée Ier. En tout cas, les travaux semblent se terminer sous Ptolémée II, c'est bien ça ?
ou Jean-Luc Fournet.
Oui, alors, c'est ce qu'on dit. Mais vous savez, la bibliothèque d'Alexandrie est extrêmement célèbre et pourtant, on ne sait quasiment rien de sûr sur cette bibliothèque. Donc, je pense que cette émission va être aussi l'occasion d'interroger un certain nombre de préjugés ou de fausses idées que l'on a sur la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, c'est vrai, on raconte que c'est Ptolémée I, Ptolémée Ier, Ptolémée Sautère, qui aurait eu l'idée de cette bibliothèque, notamment sous l'influence d'un philosophe qui avait été un élève d'Aristote. Et je vous rappelle que Aristote a été aussi le précepteur d'Alexandre. Et donc, l'aristotélisme a joué un très grand rôle pour les Macédoniens et pour les premiers Ptolémées. On raconte que Démétrios de Phalère, l'élève d'Aristote, qui, à un certain moment, a dû quitter Athènes, qui l'a gouverné et s'est réfugié à Alexandrie, aurait conseillé Ptolémée Ier dans ce projet fabuleux qu'est la bibliothèque d'Alexandrie. Le problème, c'est que nous n'avons aucun texte là-dessus. Ce que nous savons, c'est que la construction a eu lieu effectivement plutôt sous son successeur, c'est-à-dire Ptolémée II Philadelphe, qui arrive au pouvoir en 285 avant Jésus-Christ. Et c'est surtout sous Ptolémée Philadelphe que cette belle idée va se concrétiser.
Gloria Gazoli.
Oui, tout à fait. Alors, on voit ces idées qui ont traversé les siècles sur la bibliothèque d'Alexandrie. Et Jean-Luc Fournet parlait du modèle aristotélicien. On oublie souvent que la bibliothèque fait partie d'un complexe beaucoup plus large, qu'elle n'est finalement qu'une des infrastructures qui était présente dans ce musée, qui était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un centre de recherche, où l'idée de transmettre le savoir par toutes ses formes, et notamment par l'enseignement et la pratique des arts, en était partie intégrante.
On va aussi visiter, entre guillemets, ce complexe qui ressemble presque à un complexe universitaire, mais le but, en tout cas, de cette bibliothèque, c'est vraiment de faire d'Alexandrie non seulement une capitale économique, mais bien un foyer de culture et de civilisation, Gloria Gazoli.
Il y a une dimension, je dirais, de propagande politique et d'un certain impérialisme, c'est-à-dire d'appropriation de la culture grecque, de la déplacer en Égypte et de s'afficher comme une vitrine de cette culture grecque dans cette terre qui, à l'origine, ne l'était pas. Cette poussée est d'ailleurs assez, peut être même agonistique, c'est-à-dire qu'on cherche à toute force à remplir cette bibliothèque, se procurer des rouleaux. Nous, on a aussi une vision des choses, on commande des livres, on achète des livres. L'enjeu de réussir à rassembler des copies de tous les textes connus en grec est quelque chose de crucial.
Jean-Luc Fournet.
Oui. Il y a une entreprise de totalisation du savoir à travers la constitution de cette bibliothèque, mais cette entreprise n'est pas là juste pour le plaisir esthétique de conserver des livres. Il y a effectivement aussi derrière tout cela une propagande, c'est-à-dire que les Ptolémées cherchent à montrer dans le monde méditerranéen leur prééminence. Alors ça se traduit par la construction de cette bibliothèque qui se veut totaliser tout ce que l'on peut avoir écrit, en tout cas en grec. Mais il y a aussi le désir de mieux gouverner, je le disais tout à l'heure, en connaissant les autres cultures. Et notamment la culture juive qui a exercé un rôle très très important. Enfin, il y a une communauté juive très très importante, notamment à Alexandrie. Et à travers cette bibliothèque, il va y avoir la traduction des textes religieux juifs, ce qu'on appelle maintenant la Septante, donc qui est une tentative de mettre en grec les textes sacrés juifs. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi une tentative de mettre la culture égyptienne sous forme grecque. Il y a eu aussi des tentatives de traduire des textes zoroastriens, et notamment cet Hermippe qui s'y est collé, si je puis dire. Il a fait un poème de 2 millions de vers. 2 millions de vers. En mettant donc les textes zoroastriens, c'est-à-dire la religion perse, en la résumant, si je puis dire, sous forme de 2 millions de vers. L'œuvre était tellement gigantesque qu'il a fallu qu'on fasse un index de cette œuvre. Donc voilà, on essaye de à la fois de s'afficher comme au centre de l'espace méditerranéen, mais aussi on se rapproche des autres cultures pour les comprendre et aussi pour mieux les gouverner.
À quoi ressemblait donc ce complexe universitaire? Quel était donc ce premier endroit au monde consacré à tous les savoirs qui les concentrent, sans faire de distinction d'ailleurs entre science et littérature? Eh bien, restez avec nous, on s'y rend dans quelques minutes.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, c'est notre troisième épisode de notre série consacrée à l'égyptologie. On parle aujourd'hui de la mythique bibliothèque d'Alexandrie, un lieu universel de développement des sciences. On en parle avec Jean-Luc Fournet et Chloé Ragazzoli. On vient de voir que cette bibliothèque qui a été créée sous la dynastie ptolémaïque d'Égypte, on est vers moins 323 avant notre ère, elle va donc attirer les érudits de toute la Méditerranée et faire d'Alexandrie le centre intellectuel prééminent de son époque. On l'a rapidement évoqué, Chloé Ragazzoli, on peut vraiment comparer hein, ce centre comme une sorte de CNRS antique, parce qu'on a une bibliothèque, un musée, et on a aussi des fouilles qui nous font apparaître des auditoriums. On peut vraiment parler de complexe universitaire.
Oui, tout à fait. On parle du musée, donc du muséon qui était donc sous l'égide des muses. Alors nous, on pense muses, beaux-arts, musique, mais c'est les arts au sens des arts et métiers, et aussi de la connaissance plus largement. Donc il s'agit effectivement, comme le disait Jean-Luc Fournet, de totaliser le savoir et de l'exercer. Donc de l'exercer pour ce qui est des arts majeurs, il y a des ateliers, il y a des temples et des espaces de, nous on dirait des espaces de cours, mais de transmission de ce savoir avec ces savants qui tenaient une académie, si on peut dire.
Ces savants qui sont passés par là, Jean-Luc Fournet, on a un papyrus qui donne la liste des bibliothécaires parmi lesquels des grands noms.
Effectivement, je disais qu'on ne savait pas grand-chose sur Alexandrie, sur la bibliothèque d'Alexandrie. Nous n'avons pas de sources réellement anciennes. Une des exceptions, c'est ce papyrus qui a été trouvé à Oxyrhynchos et qui fait la liste des différents bibliothécaires, des différents préposés à la bibliothèque qui se sont succédés. Le premier étant Zénodote, et ensuite on a des noms célèbres comme Callimaque, comme Ératosthène, qui est un géographe connu, et d'autres noms peut-être moins connus, comme Aristophane de Byzance, Aristarque de Samothrace, qui ont laissé malgré tout leur nom hein, dans l'histoire de la philologie, parce que en même temps que s'est développée cette bibliothèque, eh bien, on a développé des méthodes pour lire les livres, pour corriger les copies de ces livres, et c'est ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire l'art, disons, du texte. Et on a mis en place ce qu'on appelle les méthodes de la philologie alexandrine, c'est-à-dire comment corriger un texte. Vous savez que les textes d'Antiquité, évidemment, on n'imprimait pas les textes, c'est-à-dire qu'un texte était copié, recopié, recopié. Et dans cette chaîne infinie, évidemment, des fautes s'introduisent, des bouts de texte disparaissent, etc. Les textes se mutilent d'eux-mêmes. Et donc, le philologue, c'est celui qui va essayer, en comparant les différents manuscrits, de remonter le plus près possible du texte original. Eh bien, toutes ces méthodes que l'on continue à utiliser aujourd'hui, hein, quand on édite des textes anciens, toutes ces méthodes ont été mises en place justement par ces bibliothécaires qui ont laissé des éditions qu'ils ont eux-mêmes corrigées, mais aussi des commentaires aux auteurs auxquels ils se sont intéressés, je pense notamment à Zénodote. Ils ont aussi développé un arsenal de signes diacritiques que l'on mettait dans la marge pour signaler des vers qui étaient interpolés, c'est-à-dire qui avaient été introduits plus tard, des vers qui, au contraire, méritent l'attention du lecteur, etc. Tous ces signes ont été utilisés pendant des siècles et des siècles. Et aussi, ils ont inventé les esprits et les accents, c'est-à-dire que le grec grec, quand vous lisez un texte grec aujourd'hui, vous avez des petits signes au-dessus des lettres, les esprits qui marquent l'aspiration et des accents. Tout cela a été inventé par ces bibliothécaires d'Alexandrie. Donc, ils ont joué un rôle absolument capital. Un rôle qui continue. Si la bibliothèque a disparu depuis belle lurette, eh bien les méthodes développées par ces philologues alexandrins persistent et continuent à marquer le travail, notre travail de philologue d'aujourd'hui.
Chloé Ragazzoli, en effet, les ouvrages les plus anciens, ce sont les ouvrages les plus convoités. Mais quelle était la politique d'acquisition des Ptolémées ? La politique, ça consistait à tout acquérir, c'est ça ?
Je crois qu'il y avait une politique très volontariste d'accéder au plus grand nombre de rouleaux. Donc, on envoyait des émissaires dans les autres cours hellénistiques pour rapporter des rouleaux. On dit, dans cette légende autour de la bibliothèque d'Alexandrie, qu'on saisissait aussi, qu'on fouillait les bateaux qui rentraient dans Alexandrie pour y trouver éventuellement des rouleaux à copier. Et je dirais, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc Fournet tout à l'heure, on a commencé cette émission en disant que finalement la bibliothèque d'Alexandrie, c'était un monde très différent de ce qu'on imaginait. Mais c'est vrai que naît quelque chose à Alexandrie, cette tradition d'une part de l'édition d'un texte qui soit le plus sûr possible par rapport à ce qu'on conçoit comme l'original de l'auteur, et puis l'accumulation des textes, donc peut-être qu'on appellerait aujourd'hui la curation et la conservation, qui est un rapport au texte qui organise aussi encore notre rapport au livre et au texte, mais qui était relativement nouveau par rapport à la tradition égyptienne ancienne, où on n'avait pas du tout cette notion d'un texte exact, inexact, qu'il faudrait éditer, préparer, vérifier.
On a une idée, enfin, le chiffre de 500 000 rouleaux est le plus souvent cité, mais il est peut-être exagéré, Jean-Luc Fournet ?
Oui, alors ça fait partie de ces informations qu'on trouve chez des auteurs qui sont assez tardifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce chiffre de 500 000 que vous citez, on le trouve dans la lettre d'Aristée, qui est un document dont il faut absolument se méfier, mais qui nous raconte comment la bibliothèque est en train d'être conçue. Et comment petit à petit elle va se développer. Et on nous apprend que, la bibliothèque royale contient 200 000 rouleaux, mais que le souverain souhaite passer à 500 000. Alors, la lettre d'Aristée est un document dont il faut vraiment se méfier.
C'est
un document du deuxième siècle. Alors, on a d'autres chiffres, mais ils sont aussi très tardifs. C'est Jean de Tzétzès, qui est un Byzantin du XIIe siècle, qui nous dit que la bibliothèque contenait 400 000 volumes summigeis. Alors, comment traduire summigeis ? Mélangé, on va dire, et 90 000 volumes non mélangés. Alors, les savants se sont écharpés pour savoir ce que voulaient dire des volumes mélangés, des volumes non mélangés. Certains pensent qu'un volume, un rouleau mélangé, c'est un rouleau qui contenait plusieurs œuvres. D'autres pensent que c'est au contraire des œuvres qui occupent plusieurs rouleaux. Bref, si on additionne les deux chiffres donnés par Tzétzès, 400 000 plus 90 000, on arrive effectivement aux alentours de 500 000. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y avait pas que la grande bibliothèque à Alexandrie. Il y avait une deuxième bibliothèque. Alors, la grande bibliothèque se trouvait dans le quartier du Broukéion, c'est-à-dire près de la mer, dans le quartier royal près du port, on va dire, au sud de l'Heptastade, qui relie, on va dire, Alexandrie à l'île de Pharos. Mais vous aviez un petit peu plus au sud le sanctuaire de Sérapéum, de Sarapis, qui contenait aussi une bibliothèque. Alors, on appelle ça la bibliothèque sœur. C'est une bibliothèque beaucoup plus petite qui, selon Tzétzès, n'aurait contenu que 42 800 volumes. C'est déjà pas mal.
Mais ça ne dit rien en plus sur le nombre d'œuvres ou d'auteurs présentés entre les copies et les différents types de rouleaux. Alors, avant le troisième siècle avant notre ère, il n'y a donc pas de bibliothèque de telle ampleur à la période pharaonique. Mais alors, dans une bibliothèque, il faut pouvoir stocker ses savoirs. Ça passe par le papyrus. Depuis quand cette technologie existe-t-elle à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'un papyrus exactement? Restez à l'écoute, on y arrive.
tree. Successful people agree, knowledge is something that can set you free. So if you wanna end up famous like me, join the public library. The library, the library, it's a place where books are free. The library, the library, librarians are often sexy.
Library de Cursor Mineur, en direct sur France Culture, car on parle de la plus célèbre des bibliothèques antiques, Alexandrie. On en parle avec Jean-Luc Fournet, professeur au Collège de France, chaire culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine et directeur d'études à l'EPHE. Et Chloé Ragazzoli, directrice d'études à l'EHESS sur la chaire écriture, savoir, pouvoir, le laboratoire égyptien, présidente de la Société française d'égyptologie. On a parlé des débuts de la fondation de cette bibliothèque. Parlons à présent de ce qu'elle contient, Chloé Ragazzoli. En l'occurrence, ce sont des papyrus. C'est une révolution technologique. C'est employé depuis le 3e millénaire. Et à cette époque, c'est le moyen d'écriture le plus important. Ça va le rester d'ailleurs jusqu'au Moyen-Âge.
Oui, on a trois grands supports d'écriture dans l'histoire de la technologie, dans l'histoire humaine. Le rouleau de papyrus, puis ce qu'on appelle le codex, le livre. Et puis aujourd'hui, l'écriture numérique avec la disparition des supports pour avoir passé au lien hypertexte. Le rouleau est une technologie particulière puisque lire un rouleau, ça veut dire faire tout ce voyage le long d'un long ruban de papyrus. C'est donc une expérience complètement différente de celle de feuilleter un livre où on peut, par exemple, avoir une information structurée et aller directement à ce qu'on recherche. Hein. Lire un rouleau de papyrus, c'est un petit peu comme nos anciennes cassettes VHS. Si vous voulez la troisième section de la chanson de la phase B, il faut dérouler en accélérer les chansons qui précèdent. Donc c'est une technologie qui est attestée en Égypte depuis finalement le tout début de l'histoire égyptienne. Hein. Les premiers restes archéologiques de papyrus datent environ du tout début du 3e millénaire. C'est aussi une technologie extrêmement robuste parce que, contrairement au papier par exemple, le papyrus ou la fibre de bois n'est pas détruite ou en tout cas écrasée par le processus, reste complète, donne un support d'écriture très, très solide et qui a donc traversé assez facilement les siècles et qui résiste à un certain nombre de contraintes environnementales.
Alors justement, on peut peut-être rappeler comment obtenir une feuille de papyrus à partir de cette plante. On a des descriptions de Pline l'Ancien, auteur antique, qui nous donne justement des renseignements assez complets sur ses méthodes de fabrication, Chloé Ragazzoli.
Alors vous avez cité la source, qui est donc très postérieure à tout ce dont nous parlons, puisque Pline est un auteur latin, enfin du monde romain. Donc les données qu'on a sont des données qui proviennent de l'archéologie et de l'observation des artefacts d'une part, d'un certain nombre de sources indirectes qui parlent par exemple de l'approvisionnement en rouleaux de papyrus, et puis ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale qui consiste à essayer de fabriquer des artefacts en suivant des méthodes qui pourraient être celles de l'Antiquité en comparant avec les données archéologiques que nous avons.
Mais Jean-Luc Fournet, puisque là on évoque en effet les méthodes de fabrication, l'importance de cette technologie, et comme toute technologie, le papyrus c'est aussi des enjeux économiques et politiques.
Oui, alors ça a été une production d'abord égyptienne, mais très vite c'est devenu une production, on va dire, méditerranéenne. C'est-à-dire que très vite le papyrus a été exporté dans l'ensemble du monde méditerranéen. Et il faut que nos auditeurs comprennent bien que si le papyrus a été inventé en Égypte, c'est devenu le support normatif de l'ensemble du monde méditerranéen pendant très longtemps, puisque les derniers papyrus qui ont servi de matériaux à écrire datent du XIIe siècle. Et on les trouve dans la chancellerie pontificale. Le pape utilisait encore, jusqu'au XIIe siècle, le papyrus comme support. Les Mérovingiens ont utilisé le papyrus. Nous avons, aux Archives nationales, les premiers documents conservés de la royauté française sont sur papyrus. Nous avons des chartes de Dagobert, de Clovis II et d'autres souverains. Donc, vous voyez, jusqu'en France, le papyrus a été utilisé partout. On a trouvé le papyrus qui a été trouvé le plus à l'est, a été trouvé à Erhanoum, en Afghanistan. Le papyrus qui a été trouvé le plus à l'ouest est un papyrus d'époque romaine qui a été trouvé dans une villa gallo-romaine dans le Morbihan. Donc vous voyez l'espace qu'a couvert le papyrus et d'un point de vue géographique et la période, puisque les premiers papyrus que l'on ait datent de quoi, de 1900 à peu près avant Jésus-Christ, et jusqu'au XIIe siècle ce support a été utilisé. Alors vous voyez que alors le papyrus est fabriqué en Égypte, a été très vite importé. On a des références chez certains auteurs grecs d'importation massive de rouleaux de papyrus en Grèce, et puis ensuite dans l'ensemble du monde romain. Le papyrus, à un certain moment, a commencé à péricliter, et évidemment, vous avez au même moment d'autres supports qui ont été utilisés de façon concurrentielle, comme la peau, le parchemin, mais aussi le papier qui va arriver de Chine via les Arabes, et qui va remplacer définitivement le papyrus, qui avait l'avantage par rapport au parchemin d'être beaucoup moins cher, parce que le parchemin était cher. En revanche, le papyrus, puisque vous parliez tout à l'heure, disons, de la dimension économique de la production du papyrus, le papyrus est un matériau qui ne coûte pas si cher que cela.
Attendons, voilà, cette révolution du papyrus antique, allons jeter un œil sur ces papyrus-là avec leur portage de jour. Le papyrus était le support majoritaire des documents hébergés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Aujourd'hui, la papyrologie qui étudie ces textes, retrouvés principalement en Égypte, nous éclaire sur la nature et la conservation de cette littérature. Pour le reportage du jour, nous allons pouvoir compulser plusieurs papyrus emblématiques à l'Institut de papyrologie de Sorbonne Université. Et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, alors la papyrologie, c'est l'étude de ces documents, des papyrus datant entre le 4e siècle avant notre ère et le 10e siècle après, qu'il faut savoir analyser et surtout bien conserver. Le papyrologue Benoît Laudenbach et le papyrothécaire Florent Jacques nous dévoilent quelques fragments de leur collection. Un plastron coloré de papyrus mâché, un fragment des Sicyoniens de Ménandre, auteur de comédies du 4e siècle avant notre ère, célébrant son temps puis tombé dans l'oubli, ou encore un des plus grands et anciens fragments retrouvés de l'Odyssée d'Homère. Au-delà, on y trouve des documents variés, des lettres, des documents administratifs, scolaires ou religieux qui tous offrent un éclairage foisonnant sur les ressorts de la société de l'époque.
L'Institut de papyrologie de Sorbonne Université est hébergé ici. Et par exemple, dans cette salle-ci, nous avons une bibliothèque
et un espace de travail.
On est entouré de bibliothèques et d'un buste.
Voilà, alors le buste, c'est le buste de Pierre Jouguet qui a fondé l'Institut de papyrologie en 1920 et qui a ramené avec lui la collection, enfin le fonds de papyrus qu'il a découvert au cours de ses fouilles archéologiques en 1901-1902. Alors j'ai sorti d'une part un document qui a une forme particulière, vous voyez là, une forme de demi-cercle. C'était au départ un plastron.
Un plastron coloré.
Un plastron coloré. Donc, par exemple, voici un plastron qui n'a pas été démonté.
De la même forme, un peu hémisphérique.
Qui a la même forme semi-circulaire, mais qui a des décorations typiquement égyptiennes, en bleu, jaune, rouge, qui symbolisent des perles, des choses comme ça.
Un enchevêtrement de colliers,
voilà,
un entrelac.
Comme plusieurs colliers.
Qui est assez bien conservé. En tout cas, les couleurs sont assez...
Celui-ci est relativement bien conservé. Surtout, il existe, parce que l'essentiel de la collection a été démonté pour retrouver les textes qui étaient à l'intérieur. Donc par exemple ce texte-là.
Alors, Ménandre.
Ménandre. Alors Ménandre est un auteur de comédie du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui était une star dans l'Antiquité, mais pas du tout au Moyen-Âge. Ce qui fait qu'on ne connaissait quasiment rien de lui, jusqu'à ce qu'on redécouvre des papyrus trouvés en Égypte.
Au 20e siècle.
Au 19e et 20e. Voilà. Donc celui-ci, c'est donc un papyrus issu d'un cartonnage qui a été retrouvé par Pierre Jouguet au début du XXe siècle, démonté au milieu du XXe siècle. Et on a retrouvé plusieurs fragments de cette pièce qui s'appelle Les Sicyoniens suffisamment pour avoir une bonne idée de l'intrigue de cette pièce qui, par ailleurs, était complètement inconnue, à part sans doute le titre qu'on devait peut-être avoir dans des citations. Donc les papyrus font ceci d'intéressant pour les textes littéraires. C'est que certes, on retrouve beaucoup de papyrus d'Homère, par exemple, de textes qu'on connaît déjà parce qu'ils sont transmis sans discontinuer à l'école depuis l'Antiquité. Mais on retrouve aussi des textes qui ont été perdus au cours du Moyen-Âge parce qu'à un moment donné, on a cessé de les recopier. On va descendre à la réserve.
L'ensemble des documents qu'on vient de parcourir sont très bien conditionnés sur des supports sous vitre. Comment on procède à ce genre de technique ?
Alors, tous nos textes, en tout cas tous ceux de la collection de la Sorbonne, mais c'est aussi le cas dans d'autres collections que je connais en Europe, ne sont pas forcément tous sous verre, en tout cas pas pour l'instant. C'est un travail de longue haleine. Déjà, il faut savoir que le papyrus aujourd'hui, pour qu'il se conserve correctement, il doit être déjà mis à plat.
Je vous en prie.
Et ça peut être dans un premier temps dans des pochettes en papier, c'est-à-dire de conservation, ou pH neutre, ce genre de choses. Et après, effectivement, il peut y avoir une mise sous verre. On fait ça en priorité ou pour vraiment des documents dans un état très délabré et pour afin de stabiliser l'état et éviter que ça se démonte encore plus. On fait ça aussi pour des textes déjà bien édités et traduits. On est à peu près sûr que l'état changera plus. Pour éviter de faire Pénélope. On fait ça aussi de façon assez prioritaire dès qu'on doit prêter un document pour une exposition, parce que c'est quand même plus simple pour le transport, l'assurance, etc.
Alors nous y voilà.
Voilà, nous sommes donc dans la réserve. Alors, tiroir, il est très lent, très grand. Donc on a ici deux plaques de verre qui font à peu près un mètre chacune. Le support, dans son état actuel, a bruni. Il pouvait être plus clair hein, quand le papyrus était plus frais. L'écriture est écrite dans une encre noire et on a une suite de majuscules qui se suivent, sans espace entre les mots. Par contre, on a un vers par ligne. On voit bien que le texte est aligné à gauche.
Justifié.
Voilà, il est justifié à gauche, exactement. Mais à droite, les lignes ne sont pas du tout égales. Tout simplement parce que les vers n'ont pas une longueur égale. Donc, on a écrit un vers par ligne. Voilà, mais sans espace entre les mots. Et on a ici, dans cette restauration qu'a faite mon collègue, il faut imaginer les deux vers les uns à côté des autres pour reconstituer le rouleau qui était même plus grand que ça et qui contient, en l'occurrence, un passage de l'Odyssée d'Homère qui a deux caractéristiques. D'abord, c'est un des plus anciens exemplaires de l'Odyssée d'Homère qu'on ait conservé. C'est pas tout à fait le plus ancien, mais c'est le plus grand. C'est le plus ancien, le plus grand.
Alors, plus ancien parce qu'il date du
3e... Alors, il date du 3e siècle avant Jésus-Christ, sans doute milieu 3e siècle. Et en tout cas, il a cette particularité d'être une version du texte d'Homère qui est antérieure au travail des savants qui travaillaient à la bibliothèque d'Alexandrie. Et ça, c'est un exemple d'un de ces textes qui est en quelque sorte, qui représente un état du texte antérieur à ce travail des Alexandrins.
Il s'agit donc du passage avec le cyclope.
C'est ça. C'est en plus, c'est le passage avec le cyclope. Alors, on s'amuse beaucoup à faire lire des passages du texte aux étudiants. Par exemple, le mot ophtalmon, ici, qui veut dire œil au singulier. Donc, forcément, ça ne peut faire référence qu'au cyclope. Oui, il doit y avoir le terme cyclops quelque part aussi.
Un autre terme que vous pourrez identifier, nous traduire ici.
Ah oui, vous avez outis ici. Outis. Et outis signifie personne. Et dans l'anecdote, enfin dans le récit d'Homère, c'est ainsi que Ulysse se présente au cyclope. Quand le cyclope lui demande « Mais qui es-tu ?», il lui dit « Je suis personne ». Et on a donc le terme ici, outis.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo et c'est à retrouver sur l'application Radio France. Chloé Ragazzoli, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Oui, alors moi j'aurais une réaction plutôt technique effectivement sur l'aspect laboratoire de la papyrologie où on voit que finalement on a aussi à l'heure actuelle accès à ces papyrus très bien conservés mais qui sont aplatis sous des plaques de verre. Le rouleau a un petit peu disparu de notre pratique quotidienne.
Vous Jean-Luc Fournet, l'écoute de ce reportage, ça vous a évoqué notre proximité ou justement notre non-proximité avec un très grand nombre d'auteurs?
Oui, effectivement, puisque là, on a affaire à des auteurs qui ont disparu pendant un certain temps. Ménandre, à partir, on va dire, du 4e siècle après Jésus-Christ, n'était plus à la mode. On lui a préféré Aristophane. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir du moment dans une civilisation qui ne connaît pas les moyens de reproduction mécanique de masse, où chaque texte est copié, recopié de façon individuelle, eh bien, à partir du moment où un texte n'est plus recopié, parce qu'il n'y a plus de demande de la part du lectorat, eh bien, petit à petit, il disparaît. Il y a des choix qui ont été faits, notamment à partir du 4e siècle, il y a des auteurs qui ont disparu. Et à partir du moment où ces auteurs n'étaient plus lus, eh bien, les copies ont disparu et ça a laissé un grand vide. Et c'est pour ça que les fouilles archéologiques en Égypte permettent de retrouver des témoins écrits de ces œuvres qui précèdent ces choix, qui précèdent ces sélections qui ont fait disparaître ces auteurs.
Sur ces auteurs et sur ces œuvres, justement, on a aussi, Jean-Luc Fournet, des anecdotes assez étonnantes par rapport justement à la bibliothèque d'Alexandrie et sur la politique d'acquisition dont on parlait tout à l'heure.
Oui, les Ptolémées ont vraiment tout tenté pour grossir le fond de la bibliothèque. Comme l'a dit tout à l'heure Chloé Ragazzoli, ils ont notamment demandé à ce que tous les bateaux qui abordaient Alexandrie et qui contenaient des livres mettent à la disposition ces livres de façon à ce qu'ils soient recopiés. Et en fait, on redonnait aux bateaux, non pas les originaux qui avaient été copiés, mais les copies. Et la bibliothèque d'Alexandrie gardait les originaux. Il y a une anecdote que raconte Galien dans son commentaire aux épidémies, qui raconte que, je le cite, « l'ardeur considérable que ce Ptolémée mit dans l'acquisition de tous les livres anciens trouve une bonne illustration dans l'histoire de ce qu'il fit aux Athéniens, leur ayant versé une caution de 15 talents. » 15 talents, c'est une somme énorme. 15 talents d'argent en échange des exemplaires de Sophocle, Euripide et Échille, les trois grands tragiques de l'âge d'or d'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je reprends Galien. « Pour en faire une unique copie avant de les rendre immédiatement en parfait état, il en fit faire à grands frais des copies sur le plus beau des papyrus. Il garda ce qu'il avait reçu des Athéniens et leur renvoya ce qu'il avait fait copier, les invitant à garder les 15 talents et accepter à la place des anciens exemplaires qu'il lui avait donné les 9. » Donc vous voyez que la bibliothèque d'Alexandrie s'est constituée aussi avec des moyens qui étaient un petit peu douteux.
Des trafics d'originaux,
ce sont ces anecdotes qui circulaient dans l'Antiquité sur cette bibliothèque qui, à l'époque, Galien, quand il écrivait, la bibliothèque probablement n'existait plus ou n'était plus réellement en fonction.
Alors comment, avec ces trafics d'originaux, de copies, comment Chloé Ragazzoli s'organisait le savoir? Comment c'était classé? Parce qu'une bibliothèque de cette envergure-là, c'est du jamais vu. Comment on peut se la représenter? Comment était classé le savoir? Il me semble que c'est la première fois qu'il y a une thématique qui est pensée et mise en œuvre.
Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on a dit que naissait finalement à Alexandrie cette approche des livres et des textes par l'édition. On a parlé de philologie, on pourrait parler d'édition finalement, d'établir des textes les plus sûrs possibles. Apparaissent peut-être aussi les métiers des bibliothèques, au sens où nous, on le pense, l'Égypte ancienne avait des gardiens des livres, et au sens de quelque chose qui amenait un prestige magique et symbolique très fort. Là, on va chercher à organiser ces rouleaux, à les enregistrer, à les étiqueter. Mais là encore, on a, par exemple, peu de de témoignages, on n'a pas de témoignages iconographiques, donc il y a un certain nombre de suppositions sur la façon dont les rouleaux pouvaient être disposés sur des étagères et différents casiers.
Jean-Luc Fournet, on arrive à se représenter visuellement à quoi ça pouvait ressembler la bibliothèque d'Alexandrie ?
Visuellement, c'est difficile, mais en revanche, on a une information concernant le classement de la bibliothèque. Nous savons que Callimaque, donc, je vous le rappelle, je l'ai cité tout à l'heure, il a été bibliothécaire en chef de la bibliothèque d'Alexandrie, mais c'est surtout un très grand poète. Hein, notamment, il a composé des hymnes et d'autres œuvres qui nous sont parvenues. Eh bien, on sait que Callimaque a rédigé une œuvre qui s'appelle les pinaques, c'est-à-dire les tables. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire faire un répertoire de tous les ouvrages qui se trouvaient dans la bibliothèque. Donc, sous la forme d'un registre de noms de tous les auteurs connus qui étaient classés par ordre alphabétique, par genre, avec des notices biographiques et des notices bibliographiques. Et cette œuvre, malheureusement, ne nous est pas parvenue. C'est dommage, parce que on en saurait beaucoup plus sur ce que contenait la bibliothèque d'Alexandrie et surtout sur la façon dont elle a été classée. Mais ce qu'on sait, c'est que ces pinaques couvraient 120 rouleaux de papyrus. Donc vous vous imaginez l'ampleur que ces pinaques avaient, et ça nous donne une petite idée de ce que représentait le fond de la bibliothèque d'Alexandrie.
Alors, ce fond de la bibliothèque d'Alexandrie, qu'est-il devenu ? On a deux minutes avant de retrouver la chronique d'Alexandre Dalbo, mais Chloé Ragazzoli ou Jean-Luc Fournet, selon les auteurs, la grande bibliothèque d'Alexandrie a soit brûlé par Jules César en 48 avant notre ère, soit par les chrétiens en 391, soit par les musulmans au 7e siècle. Quelle est la version la plus consensuelle, Jean-Luc Fournet ?
Consensuel
dans le sens où celle où on a le plus de certitude,
je dirais,
sur
aucune,
une fin, parce que
alors on a Ammien Marcellin, donc qui est un historien latin du 4e siècle, nous dit dans les années 380 que alors les 700 000 volumes, alors vous voyez que le chiffre de 500 qu'on a donné tout à l'heure a encore grossi, les 700 000 volumes réunis par les Ptolémées brûlèrent tous sous la dictature de César lors de la guerre d'Alexandrie. Donc, il lance l'idée que, durant la guerre d'Alexandrie, certains incendies provoqués par les échauffourées auraient mis fin à la bibliothèque d'Alexandrie. En fait, maintenant, on pense que ce sont simplement des entrepôts de livres qui se trouvaient sur le port, pas très loin de la bibliothèque, puisque je vous ai dit que la bibliothèque n'était pas très loin, avaient brûlé. La bibliothèque a continué probablement à fonctionner. Selon d'autres, ça pourrait être la guerre entre l'empereur Aurélien et Zénobie de Palmyre en 272 qui aurait provoqué des incendies qui auraient mis fin à la bibliothèque. Et la dernière hypothèse qui a été émise, c'est que c'est sous les Arabes, lorsque les Arabes sont arrivés en Égypte en 642, le conquérant Hamr aurait écrit au calife Omar en lui disant « Qu'est-ce que je fais de cette bibliothèque ?» Et le calife aurait répondu « Écoute, si les livres correspondent à ce qu'il y a dans le Coran, ça sert à rien, tu les brûles. Si les livres sont contre le Coran... »
Et c'est l'hypothèse la moins valable de toutes.
Évidemment,
je suis obligé de vous interrompre, je suis désolé Jean-Luc Fournet, mais ce n'est pas l'hypothèse à laquelle il faut s'attacher. Et en effet, il faut rester dans les alentours
dans les 3e siècle, on va dire.
Exactement. Et désolé de vous interrompre, mais nous devons nous tourner à présent vers Alexandra Delbo, parce qu'on rejoint, comme tous les jours, la chronique avec science. Un grand merci à vous deux.
Quel est l'effet de la pollution lumineuse sur la santé des crapauds ? Le comportement des animaux est influencé par la pollution lumineuse, on le sait. Par exemple, la lumière artificielle nocturne bouleverse le rythme des oiseaux. Ils chantent en moyenne 50 minutes de plus par jour, un petit peu plus le matin, un petit peu plus le soir. On ignore encore ce que cela implique pour leur survie ou leur reproduction, mais la conclusion est claire, la lumière nocturne change leur comportement. Mais est-ce que la pollution lumineuse peut aussi modifier la physiologie des animaux ? Tout porte à croire que oui, tant la lumière est importante pour les horloges internes. Louise Chesnel est chercheuse postdoctorante au LENA, le laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés à Lyon.
l'alternance du jour et de la nuit. C'est un signal majeur pour l'ensemble des êtres vivants, hein, des bactéries aux plantes, aux animaux, même chez nous, l'humain. Et c'est ce qui va rythmer à la fois les comportements, mais aussi notre physiologie, le fonctionnement de l'organisme sur 24 heures. Ça peut être des variations de la température corporelle, des sécrétions d'hormones, etc. Et en fait, l'utilisation de lumière artificielle en période où il est censé faire nuit, ça va envoyer un mauvais signal à l'organisme et perturber son fonctionnement. Il y a beaucoup d'études sur les effets de la pollution lumineuse qui sont testées en laboratoire, en conditions expérimentales, donc en mettant des animaux sous différentes intensités lumineuses. Et ça, ça va avoir des effets donc très forts sur leur physiologie, sur leur organisme. Mais la question que cela pose, c'est la question aussi du réalisme de ces études. Très souvent, ces études, elles vont utiliser des intensités qui vont par exemple être très importantes, ou alors des spectres lumineux qui sont pas forcément représentatifs de ce qu'on va trouver en milieu naturel. On se demande quand même si en milieu naturel, à des intensités de pollution lumineuse qui vont souvent être beaucoup plus faibles, ces effets ils vont être retrouvés chez la faune sauvage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant.
En laboratoire, on sait que la lumière nocturne peut modifier le métabolisme ou encore l'immunité. Mais ces effets existent-ils aussi en milieu naturel, à des niveaux de lumière réalistes et chroniques? C'est précisément ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans la revue Functional Ecology, en s'intéressant à un animal encore peu étudié, le crapaud commun. Un choix qui fait sens puisque les amphibiens sont des animaux plutôt nocturnes et donc potentiellement très sensibles à la lumière artificielle. Et pour étudier les amphibiens et ces crapauds communs, il y a une période particulière à ne pas louper. Les crapauds ne sont visibles que quelques semaines, entre février et mars, quand ils quittent la forêt, où ils se cachent le reste de l'année pour rejoindre les mares et se reproduire. Dans cette étude, 15 populations de crapauds communs ont été suivies en région Rhône-Alpes, dans des sites plus ou moins exposés à la pollution lumineuse. Leur condition physique a été évaluée et leur immunité mesurée grâce à une prise de sang. Résultat, les crapauds les plus exposés à la pollution lumineuse sont en moins bonne santé.
C'est-à-dire qu'on a trouvé que les crapauds des sites les plus exposés étaient beaucoup plus petits et maigres que les crapauds des sites plus sombres. Donc en fait, ces résultats, ils sont intéressants parce qu'ils vont valider un petit peu certains résultats comportementaux qu'on avait déjà obtenus dans l'équipe, où il avait été montré par mes collègues que les crapauds exposés à la pollution lumineuse vont avoir une décroissance extrêmement forte de leur activité. Ils vont aussi avoir beaucoup plus de mal à chasser parce que leur œil, qui n'est pas du tout adapté à des conditions lumineuses un petit peu plus élevées, va avoir beaucoup de mal à détecter et à attraper les proies. Donc tout ça, on peut penser qu'effectivement, ça va influencer leur capacité à se développer, à chasser et donc à se nourrir. Au niveau de l'immunité, on a trouvé des différences effectivement entre les sites exposés et les sites non exposés à la pollution lumineuse, donc notamment par exemple sur certaines mesures de l'inflammation. Mais ces effets, alors déjà, ils étaient un peu différents de ce qui avait été trouvé dans les études en laboratoire. Et ces effets, ils n'étaient pas seulement associés à l'exposition à la pollution lumineuse des sites, mais aussi plutôt à l'urbanisation générale de ces sites.
Impossible d'incriminer seulement la pollution lumineuse. D'autres effets peuvent entrer en jeu, comme la pollution sonore, la pollution chimique ou encore la dégradation des habitats liés à l'urbanisation. Ce travail de terrain est intéressant parce qu'il ne retrouve pas exactement les mêmes effets sur l'immunité que ceux observés en laboratoire. Cela ne remet pas en cause les expériences précédentes, mais montre que terrain et laboratoire sont complémentaires. L'un permet d'identifier des mécanismes précis, l'autre de les tester dans des conditions réelles. La suite, maintenant, c'est de comprendre pourquoi certains marqueurs de l'immunité varient. Les chercheurs et chercheuses ont aussi prélevé du microbiote cutané et intestinal. L'objectif à présent est de rechercher la présence de parasites ou de maladies pour mieux comprendre le lien entre état de santé, immunité et exposition à la pollution lumineuse chez les amphibiens.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver le fil science par Evelyne Heyer en partenariat avec le MNHN.
D'où viennent les humains qui peuplent la France? Il y a 30 000 ans, les habitants de la France peignaient les grottes de Lascaux. Leur peau était sombre, leurs origines lointaines et leur ADN porte la trace de rencontres inattendues. D'où viennent les humains qui peuplent la France? Nous, les Homo sapiens, sommes nés en Afrique. Certains de nos ancêtres quittent le continent africain pour peupler le reste de la planète il y a environ 70 000 ans. Dès leur sortie d'Afrique, en prenant le chemin de l'Europe et de l'Asie, ils rencontrent d'autres humains, comme les Néandertaliens. Ces Néandertaliens étaient installés en Eurasie depuis plusieurs centaines de milliers d'années également issus d'une autre sortie d'Afrique beaucoup plus ancienne. En fait, cela ne fait que 40 000 ans que notre espèce vit en Europe et peuple l'actuel territoire français. Lors de cette dispersion hors d'Afrique, nos ancêtres ont échangé des gènes avec les Néandertaliens. Ils ont fait des bébés ensemble. Ainsi, la majorité des Européens ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Après la disparition des Néandertaliens, Homo sapiens devient la seule espèce humaine à vivre sur la planète. Et il va continuer de la parcourir. De récentes études ont comparé l'ADN d'Homo sapiens européen contemporain avec celui d'Homo sapiens vieux de plusieurs milliers d'années. Il en ressort que la majorité des Européens d'aujourd'hui descendent d'au moins 3 groupes d'humains arrivés en Europe à différentes époques. Le premier est un groupe de chasseurs-cueilleurs arrivés durant le Paléolithique et qui était déjà présent il y a 40 000 ans. Puis, des agriculteurs du Proche-Orient arrivés il y a 8 000 ans. Enfin, un groupe de bergers nomades de Russie, les Yamnaya, en Europe depuis 4500 ans environ. Et ces mouvements n'ont eu de cesse de déplacer, de mélanger, de métisser les humains et leurs gènes jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, comme le dit ma collègue au Musée de l'Homme, Raphaël Schex, sur un plan anthropologique et même génétique, la notion de femme ou d'homme français n'a pas de sens. La couleur de peau blanche n'est d'ailleurs pas apparue en France ou en Europe de l'Ouest. Elle proviendrait de gènes portés par un groupe d'humains venus du Proche-Orient il y a 8000 ans. Le continent européen et donc la France ont bien été habités plus longtemps par des humains à la peau sombre, comme l'homme dit de Cro-Magnon par exemple, que par des humains à la peau claire. Cette couleur de peau est apparue très récemment à l'échelle de l'histoire de l'Europe. Les humains qui peuplent la France viennent donc d'un peu partout. Une population est en effet rarement le fruit d'une seule migration. Elle est la somme de différentes migrations qui se sont opérées depuis des milliers d'années et qui sont d'ailleurs toujours en cours. Dans les arbres généalogiques, il suffit parfois de remonter sur 2 ou 3 générations pour trouver des ancêtres d'autres régions, d'autres pays, avec une histoire migratoire différente. Nous avons tous des ancêtres migrants.
Merci Evelyne Heyer pour ce Fil Science et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de La Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Paul Guigue, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.